15h.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Un choix d'archives donc pour revenir sur le parcours de Jacques Brel, des archives de la Sonuma, né le 8 avril 1929 à Schaarbeek, de mère bruxelloise, de père flamand. Le grand Jacques va nous parler ici de l'enfance, de son enfance. C'est un extrait de l'émission des radios publiques francophones « Brel aimé jusqu'à la déchirure », diffusée en 2002 sur la première.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Pour moi, l'enfance est une notion géographique. Je crois qu'on est, on est né dans un coin qui est l'enfance. C'est géographique. Pour moi, l'enfance, c'est un ciel bas. Il fait gris, il fait humide. Et il y a des adultes que je ne comprends pas. Ça aurait très bien pu se passer, je crois, dans le Limousin ou en Bretagne ou à Paris. Il se fait que ça s'est passé en Belgique. Mais l'enfance, c'est plus une notion géographique qu'une notion plutôt historique. Enfin, je crois que l'enfant est parfaitement nomade, donc aventurier. Et on lui apprend petit à petit à être prudent, à être sage, à être économe. Pas dans le sens, même pour pognon, dans le pire sens du mot. Enfin, d'économe de ses forces. On lui apprend des tas de choses abominables. L'espoir, mais le mauvais espoir, en disant « il va t'arriver des choses ». Or, il ne nous arrive jamais rien. Moi, dans ma vie, il ne m'est arrivé que moi.
En réalité, j'ai eu une enfance où il ne se passait presque rien. Il y avait un ordre établi, assez doux. C'était pas rugueux du tout, c'était pas dur du tout. C'était paisible et forcément morose. Enfin, ça, on ne le sait qu'après. J'étais fils de bourgeois, mais ça aussi, je ne l'ai su que longtemps après, puisque pendant la guerre est arrivée au moment où j'aurais dû me rendre compte que j'étais fils de bourgeois, et la guerre a fait qu'il n'y avait pas plus de fils de bourgeois que d'autres choses. On était surtout soi-même pendant la guerre. Donc j'ai su que j'étais fils de bourgeois que très longtemps après. Je crois que c'est assez normal, je vivais dans un monde d'adultes. Mes parents étaient assez âgés, mais mon frère est toujours plus âgé que moi, donc il y avait assez peu de contact. Et il y avait des valeurs mises en avant, enfin des valeurs que eux respectaient infiniment et qui ne m'intéressaient pas. Il y avait une valeur d'argent certainement qui dominait tout ce milieu. Mais ça aussi, je ne l'ai su que longtemps après. À 11 ans, c'est absolument rien de tout ça. Je trouvais ça triste. Et je trouvais ça sans imagination. Je trouvais que ces gens se donnaient beaucoup de mal pour une chose que j'ignorais. Alors j'avais des... On ne peut pas parler d'amis à cette époque-là, des camarades, enfin. On dirait des copains, je crois, maintenant. Et puis, je m'inventais des petites guerres, je m'inventais des aventures. J'aimais bien raconter des histoires, entièrement fausses, enfin, entièrement. Je m'inventais un monde où je devais... qui me suffisait. J'étais seul. Ça, je le constatais. J'étais assez seul. Et le rêve que j'essayais de communiquer se heurtait à des chiffres ou à des raisons d'État, ou à des raisons... Enfin, des raisons qui n'étaient pas les miennes. Donc, je devais me débrouiller tout seul. Ça n'est pas triste du tout, hein. Ça n'est pas triste du tout. C'est morose et je suis ravi d'avoir eu une enfance morose. Ça va être abominable d'avoir une enfance heureuse, parce qu'après, vraiment, c'est terrible.
Je crois que l'injustice la plus flagrante, c'est le comportement des adultes quand quelqu'un a 10 ou 15 ans. Parce qu'en fait, je crois que toute la vie se décide au moment où, pour la première fois, un être doué de raison se demande si ce sont les adultes qui sont cons ou si c'est lui qui se trompe.
Brel, c'est la Belgique. Il a toujours revendiqué sa belgitude à travers le monde. Son père était flamand francophone et lui s'est toujours considéré comme un flamand de pensée.
Quand je dis que je suis flamand de pensée, je ne peux évidemment pas prouver que c'est vrai. Cela dit, un type qui passe pendant 20 ans beaucoup de temps à parler du plat pays ou des flamands, de machin, je parlais quand même pas des Alpes, hein. Ni de l'Adriatique. C'est quand même de ce pays-ci dont je parlais.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse.
J'aime les Belges. D'abord, je suis Belge. Je suis belge et je passe finalement, depuis 20 ans que j'écris des choses qui ne sont absolument pas congestionnantes d'intérêt mais qui existent, depuis 20 ans, je parle, en tout cas, si pas de la Belgique, je parle des Belges, ou de la Flandre, ou du machin, j'en parle. Et j'en parle avec l'accent, pourquoi pas. Et j'en parle de manière précise, comme comme le plat pays ou comme d'autres histoires, enfin, peu importe. Et il y a des gens qui refusent un peu cette condition de Belgique. Et c'est un peu désolant. Moi j'aime, ça ne me plaît pas beaucoup. Parce que quand on est de quelque part, si on veut que ça change, on fait une révolution. Mais on ne dit pas toute sa vie « Oh, c'est pas drôle ». Vous comprenez ça ?« Oh, mais nous, vous comprenez, les pauvres Belges, vous comprenez, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout, tout le monde se fout de notre gueule ». C'est pas vrai. Le monde ne sait pas où est la Belgique. En général, il faut être humble. Mais alors, je crois qu'il faut assumer sa condition, ou la modifier, mais la modifier vraiment, voilà. C'est pour ça qu'il y a une série de gars, à mon avis, qui jouent à ne pas être Belges. Il y a une dame, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « Mais enfin, M. Brel, plus personne ne parle avec la chambre chez moi. Pourquoi vous vous manquez comme ça tout le temps de nous ?» Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et moi, ça me paraît charmant, cet accent-là. Seulement, quand je le dis aux gens, ils ne me croient pas. Mais je trouve, moi, que c'est un truc charmant. À un moment donné, j'avais écrit les bonbons avec l'accent bruxellois. Et y a des gens ici qui ont cru que je me moquais de l'accent bruxellois. Pas du tout. J'ai employé l'accent. Parce qu'il existe, bon sang.
Vois-tu, Germain, j'ai eu trop mal quand tu m'as fait cette réflexion au sujet de mes cheveux longs. C'est la rupture bête et brutale. Je viens rechercher mes bonbons.
Moi, je trouve le flamand joli. Ne riez pas, hein. Je trouve le flamand phonétiquement assez joli. Et en réalité, c'est pas du tout pour concilier quoi que ce soit. Il faudrait qu'il y ait vraiment bagarre. Or, on sait bien que tout ça est assez rigolo plutôt comme bagarre. Mais c'est pour essayer de traduire le climat un peu de mon pays avec les mots qui lui sont propres. Et la Flandre provoque, si vous voulez, dans ma tête, certaines sonorités qui c'est du flamand.
Mein Vlakland.
À l'instant, une interview qui date de 1962.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Sur la première.
Après avoir rechanté dans les cabarets bruxellois, il enregistre en 1953 son premier disque, un 78 tours, sur lequel on retrouvait les chansons Il y a et La Foire. Et c'est avec cette carte de visite qu'il va tenter sa chance à Paris. Il raconte ici la période de ses débuts dans la Ville Lumière. C'est un extrait de l'émission de la CRPLF, Brel aimait jusqu'à la déchirure.
Je suis arrivé à Paris, je ne connaissais personne. Je me suis amené avec... j'avais 4 ou 5 chansons à l'époque. Et puis j'ai passé les auditions partout. Et on n'a pas voulu de moi, bien sûr. Alors ça a duré un an et demi. Et puis petit à petit, on les a à l'usure, finalement. Mm-hmm. On passe 8 jours dans un cabaret, 15 jours dans un autre, et puis ça démarre doucement.
Quand on fait quelque chose, il faut plonger dedans comme un fou. Sans quoi il ne faut pas plonger. Sans quoi il fallait rester à l'usine, vendre du carton ou se faire pompiste. Enfin, je ne sais pas faire ça. Donc là, c'est un problème d'honnêteté morale, si vous voulez. Et je trouve ça très important. Je l'ai fait avec une énergie, si vous voulez, d'efficacité à un moment donné, pour une raison extrêmement simple. J'étais marié et on crevait de faim. Parce qu'après, l'usine, c'était moins drôle. Donc il fallait, c'était une question de survie, un phénomène de... C'était le bombard de la chanson, si vous voulez. Il fallait me donner à manger, quoi. Alors, pendant un certain temps, je faisais jusqu'à 7 cabarets par nuit, ce qui est énorme. Quand je repense à ça, j'ai peur. Ça faisait 9 chansons, donc ça faisait 49 chansons. En gros, 7-9 chansons. En gros, je me souviens, je faisais 49 chansons par nuit. Et dans des cabarets pourris, avec des dames nues, enfin des choses de... Mais c'était pas triste du tout. Donc il y avait un problème de nourriture, de subsistance. Et après, une espèce de rage d'essayer de bien faire.
Pour commencer, voici Jacques Brel, le jeune chanteur-compositeur dont vous fredonnez les succès, un vrai poète qui ne fait pas de concessions, et que le Paris nocturne a le bon goût de s'arracher puisqu'il passe chaque soir aux Trois Baudets et au Drap d'Or, chez Patachou et à l'échelle de Jacob.
Par conséquent, Jacques Brel, vous faites toutes les nuits un certain voyage nocturne à travers Paris.
Oui, c'est une véritable cavalcade, parce que la nuit commence à Montmartre, continue à Saint-Germain. De là, je repars à Montmartre pour terminer aux Champs-Élysées.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Petit à petit, Jacques Brel trouve son style et son public. En 1956, paraît son premier grand succès, Quand on a que l'amour. En 1957, son second 33 tours reçoit le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Et fin 58, c'est le succès à l'Olympia. Les tournées s'enchaînent à un rythme infernal. Brel donne parfois plusieurs concerts par jour. En octobre 66, à 37 ans, il décide d'arrêter les tours de chant et il choisit l'Olympia à Paris pour faire ses adieux. Armand Bachelier était sur place, micro à la main, pour interviewer le chanteur sur son avenir.
Je voudrais continuer à écrire des chansons, à faire des disques, mais le tour de chant, je crois que c'est fini. Enfin,
pourquoi? Ça vous a déçu?
Oh, pas du tout, pas du tout. Ça a été formidable. Enfin, pendant 15 ans, c'est une école, c'est une discipline... Une discipline fantastique. Je trouve qu'on devrait faire de la chanson obligatoire comme on fait le service militaire obligatoire. Enfin, ça impose une discipline non seulement à la cervelle, pour autant qu'on en ait une, mais au corps aussi. C'est formidable.
Et ça vous a épuisé alors?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. J'ai l'impression d'être en pleine forme.
Et vous n'en éprouvez plus aucune joie de chanter?
Si. Je suis pas déçu du tout, ni triste, ni rien, ni quoi que ce soit.
Alors pourquoi vous partez?
Mais parce que je peux pas passer ma vie à chanter sur une scène.
Vous voulez dire qu'il y a des choses plus sérieuses?
Non, pas nécessairement. Non, des choses qui... J'ai envie d'essayer, j'ai un côté aventurier quand même, ou aventureux au moins. Alors je veux essayer d'autres choses, c'est ça. Je ne pars pas pour arrêter la chanson, c'est parce que j'ai terriblement envie de faire d'autres choses.
Vous n'avez pas peur des atteintes de l'âge?
Il serait toujours temps de les constater, enfin, à ce moment-là.
Quelles autres choses avez-vous envie de faire?
J'ai une sacrée envie d'aller vivre dans un certain nombre de pays. Et je vais le faire. J'ai envie d'écrire des chansons un peu différemment de maintenant. Je serais incapable d'expliquer.
Parce qu'un poète ne découvre pas les pays sans y aller.
Je suis pas un poète, moi je fais des chansons.
Vous voulez devenir reporter, alors reporter de la chanson?
Non, je veux savoir si... Il y a des coins du monde où je me demande si les hommes n'ont pas peur à autre chose que nous. C'est ça qui m'intéresse, alors je vais essayer.
Mais est-ce que l'homme n'est pas tout simplement un autre pays? Est-ce qu'il y a autre chose à découvrir que l'homme?
Il y a à découvrir les hommes, oui. Les hommes. Or, les hommes sont quand même furieusement conditionnés par les pays. Bien sûr, les grandes lois sont les mêmes, mais... Par exemple, passer un mois avec des gens d'une religion et puis un mois avec les gens d'une autre religion, par exemple, ça explique bien des choses.
Mais si vous découvrez que c'est partout la même chose, qu'est-ce que vous ferez? Vous reviendrez au pays?
Non, je suis sûr que c'est à peu près partout la même chose. Si vous voulez, ce sont ces nuances qui me séduisent. Après, je sais pas où j'irai.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie, et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qu'aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur.
C'est le 6 novembre 1965 que Jacques Brel enregistre pour Barclay cette chanson, ces gens-là. Il continue donc d'écrire dans ses années 60, il fait ses débuts au cinéma aussi, d'abord en tant qu'acteur en 1967 dans Les risques du métier de Kayat, plus tard en tant que réalisateur pour France en 1971 et puis Le Far West en 73. Il part à la découverte du monde sur son voilier, il devient pilote. En 68, Brel s'essaie à un nouveau style, la comédie musicale, avec L'Homme de la Mancha, c'est un spectacle qu'il dirige et dans lequel il interprète le personnage de Don Quichotte. Le spectacle sera monté à la Monnaie à Bruxelles en octobre 1968.
C'est difficile de monter une comédie musicale. Je crois qu'il y a deux choses très très difficiles sur Terre. C'est garder intact un troupeau d'éléphants au sommet de l'Himalaya et monter une comédie musicale. Je crois que vraiment ces deux choses-là sont assez difficiles. Alors évidemment, comme c'est difficile, c'est excitant. Et mon vice, ça serait plutôt d'aimer le danger. Ça, c'est certain. Alors là, ça m'excite pas mal. Enfin, ça n'est pas un défi. Vous savez, c'est une façon de sentir qu'on vit. C'est tout. C'est pas plus que ça et pas moins que ça non plus.
Le musical rend solitaire, totalement solitaire. Là, je redécouvre l'équipe. Avec tout ce que ça a de beau, tout ce que ça a de fragile. Tout ce que ça a de cruel et de tendre en même temps. Alors là, ça m'apporte beaucoup, ça. C'est bien. Ça me fait du bien.
Le 4 octobre dernier, alors que les brouillards d'automne prenaient possession de Bruxelles pour de longues semaines, la première de L'Homme de la Mancha, comédie musicale adaptée en français par Jacques Brel, laissait présager un immense succès.
Il rejette le triste fardeau du bon sens et conçoit le plus étrange projet jamais imaginé, devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijana, mais le preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha.
Monsieur, vous avez aimé le spectacle ?
Énormément.
Pourquoi ? Pour quelle raison exactement ?
Spécialement pour le jeu de Jacques Brel, qui est remarquable. Et la mise en scène qui est de tout premier ordre.
C'est absolument magnifique. Une réussite pour Jacques Brel, certainement.
Vous avez retrouvé le Jacques Brel du tour de chant, c'est tout à fait autre chose.
Non, non, l'âme reste la même.
Monsieur, que pensez-vous de ce spectacle ?
Merveilleux.
Et Jacques Brel ?
Comme toujours, sensationnel.
Juliette Gréco, que pensez-vous de ce spectacle ?
C'est un spectacle splendide. Je suis enchantée d'être venue un jour plus tôt exprès à Bruxelles.
Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement ?
Le tout, c'est un très beau spectacle, c'est très bien mis en scène, c'est très bien monté, puis c'est admirablement bien interprété, puis Jacques est merveilleux, quoi.
Jacques Brel, pourquoi avez-vous choisi d'adapter L'Homme de la Mancha ?
Parce que j'avais vu le spectacle à New York et que je le trouvais joli. Puis que l'idée de transposition de la réalité dans le rêve par de Don Quichotte me plaît bien.
Et qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans l'histoire et dans la comédie musicale que vous avez vue, justement ?
Mais c'est que c'est plein de rêves et de tendresse et de folie, voilà, c'est ça. Les notions auxquelles je tiens particulièrement. C'est pas une histoire d'argent, ni une histoire de fesses, enfin, voilà.
Mais c'est plutôt le sujet ou bien le fait qu'il s'agissait déjà d'une comédie musicale qui vous a quand même poussé ?
Non, ça me semblait très bien fait. Et il y a une très belle architecture, je trouve, là-dedans. Et c'est pour ça que c'est ça qui m'a excité.
Et le personnage de Don Quixote ?
C'est un personnage assez extraordinaire, enfin.
Pensez avoir certains points communs, vous, Jacques Brel, avec...
Tout le monde, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Tout le monde a un côté Don Quichotesque, n'est-ce pas ? Je l'espère, en tout cas.
En quoi croyez-vous, vous, le plus ?
En la patience des hommes. C'est incroyable ce que les hommes sont patients. Pour un petit rêve, ils supportent n'importe quoi. Même le travail.
Moi, pour un monde insupportable.
Don Quichotte, pour moi, c'est le symbole de la minorité. C'est un type qui tend la main, tout de même. Il donne priorité à ses rêves. C'est ça qui est important. Il va où il croit que c'est beau.
de nouveaux horizons, tous azimuts, donc pour Jacques Brel, et au niveau géographique aussi, puisqu'il décide de se retirer aux Marquises sur l'île d'Ivaoa en 1975.
Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux Marquises.
Il va rompre tout contact avec la presse dès 1974. Pourtant, en juin 1978, il accepte de guider une équipe télé de la RTBF de Visa pour le Monde qui réalise un reportage aux îles Marquises précisément. C'est le Brel pilote que l'on va entendre ici, survolant et présentant la côte est de l'île Ivaoa sur laquelle il vit. Tendez l'oreille, l'artiste est aux commandes de son bimoteur baptisé Jojo, aux côtés de sa compagne d'alors Madly.
C'est là que ça va être bien, c'est là que c'est bien, attention. Je vais très bas là, hein. Faites gaffe les mecs.
En nous emmenant survoler la côte est de l'île d'Ivaoa, Brel nous avait dit « Vous allez faire une première, un scoop. Cette partie-là, elle n'a encore jamais été filmée. »
Attention, pareil à photographier, hein. C'était joli, non ?
Oui.
Bon, c'était joli, bon. Plus bas que ça, je pouvais pas. Ah, ça m'amuse, merde.
Mais j'ai pas de contrôle.
Ah bon ?
Il n'y a plus qu'à remonter, maintenant.
Mais ouais, on met pas 2900 ans, merde.
On peut retrouver l'intégralité de cette séquence sur le site de la Sonuma, la sonuma.be. Brel va décéder quelques mois seulement après cette séquence qui a été tournée. Atteint d'un cancer du poumon, l'artiste s'avait condamné. On va l'écouter dans divers extraits de l'émission Brel aimé jusqu'à la déchirure.
Je deviens vieux, c'est... Et on ne promène pas impunément un désespoir toute sa vie.